Nous allons reprendre cette conversation sur Louis Guillou avec vous dans quelques minutes, Jean-Baptiste Legavre. Mais tout de suite, c'est en compagnie des revues avec aujourd'hui Alexis Broca du magazine littéraire. Bonjour Alexis.
Bonjour Mathieu.
La question traditionnelle, avant de commencer à parler du sommaire du magazine, êtes-vous un lecteur de Louis Guillou? Avez-vous des choses à dire sur ce qu'on a déjà commencé de dire dans la première partie de cette émission?
Alors je suis un petit lecteur de Louis Guillou puisque j'ai lu le Sang Noir il y a une vingtaine d'années. Moi j'avais été, évidemment c'est une lecture qui m'avait sidéré à l'époque. Évidemment j'avais été sidéré par le contraste entre la violence du propos envers l'humanité et la beauté de l'écriture. C'est par ailleurs personnellement un livre qui a détruit en moi la petite mythologie que je pouvais avoir sur l'homme de lettres. Voilà, j'avais une vision pour le coup sans doute petite bourgeoise de l'homme de lettres et Cripure a violemment anéanti cette vision. Par ailleurs, sur ce que vous disiez sur les nécrologies et la façon dont elles tentent à réduire les écrivains à quelques clichés. Je trouve que, en effet.
Et nous qui faisons des nécrologies
exactement.
Un petit peu tout le temps, on sait ce que c'est.
Voilà, on essaie de lutter contre ça. Et en même temps, c'est vrai que lorsqu'on écrit une nécrologie, on a tendance à s'appuyer sur ce qu'on appelle les saillances de l'écrivain. On cherche à le singulariser, en effet. Et il y a une espèce de mouvement kundérien qui se passe. C'est-à-dire qu'à notre corps défendant, en effet, on le transforme en ce qu'il avait de plus coloré. On le transforme en kitsch, en fait. Et il est fort difficile d'écrire une nécrologie vraiment nuancée et qui rende justice à un auteur, mais on essaye parfois et là on le fait d'ailleurs.
Et ben vous le faites parce que c'est une grosse nécrologie de Homère que vous nous proposez dans le magazine littéraire de ce mois d'octobre, enfin du mois d'octobre à venir.
Oui.
La figure littéralement infinie d'Homère, Alexis.
Mais oui, on essaie de répondre à une question qui est une question impossible. Qui était Homère? Qui était ce poète dont les œuvres nous sont parvenues complètes, achevées, et dont ses biographies nous sont parvenues, au contraire, tissées de légendes, toutes plus incertaines et toutes plus contradictoires les unes que les autres. En fait, dans l'Antiquité, on avait déjà écrit des biographies d'Homère, c'était des vies d'Homère, et lorsqu'on les examine, eh bien, pas de chance, elles sont toutes absolument contradictoires. Par exemple, il est né tantôt à Smyrne, tantôt à Chimée, tantôt à Colophon, tantôt à Chios. Certains le font naître avant la guerre de Troie, comme ça il peut y assister, donc il le raconte à la façon d'un journaliste, en quelque sorte. D'autres le font naître cinq siècles plus tard. Alors, il y a des éléments communs. Les traditions s'accordent pour dire que ça aurait été un Aède itinérant, qu'il aurait perdu un concours de poésie contre Hésiode. Parce que, alors, on lui aurait reproché de chanter la guerre quand Hésiode, lui, chantait la paix. On dit aussi qu'il serait devenu...
C'est un mauvais choix, ça.
Non, c'est un mauvais choix, en effet. On dit qu'il serait devenu aveugle de son vivant. Et les légendes s'accordent aussi à dire qu'il est mort à Ios. C'est très curieux, d'ailleurs, cette histoire. Il serait mort faute d'avoir su répondre à une énigme que lui posait un jeune pêcheur.
Alors,
l'énigme est géniale, je trouve. Les jeunes pêcheurs ont présenté cette énigme à Homère. « Ceux que nous avons pris aujourd'hui, nous les avons jetés. Et ceux que nous n'avons pas pris, nous les avons gardés. Nous les emportons. De quel animal s'agit-il ? » Bon, en fait, il se trouve qu'il ne faisait pas beau ce jour-là, que les pêcheurs n'avaient pas pris la mer et qu'ils avaient passé la journée à s'épouiller. Et donc, en effet, les poux qu'ils avaient pris, ils ne les avaient pas rapportés. Les poux qu'ils n'avaient pas pris, ils les avaient rapportés. Et la légende dit qu'Homère, désespéré de n'avoir su résoudre ce problème, se serait jeté d'une falaise. Voilà. Donc, ce qu'on voit en fait de cela, c'est que dès l'Antiquité, Homère est moins un personnage historique qu'un mythe.
Donc voilà pour l'Antiquité, mais ensuite la modernité, Alexis, a remis en cause la figure d'Homère.
Oui, en effet. Alors la modernité a beaucoup remis en cause la figure d'Homère. C'était d'ailleurs pas facile parce qu'il se trouve que remettre en cause la figure d'Homère au XVIIe siècle, c'était presque un sacrilège puisqu'on s'attaquait à un texte canonique. Qu'est-ce qui allait venir après ? Voilà, c'était inquiétant. Beaucoup de chercheurs se sont intéressés aux différences entre l'Iliade et l'Odyssée. Et en effet, il y a des différences de pensée entre les deux qui tendent à montrer qu'elles n'ont pas le même auteur. Il y a la question de l'imperfection des rois. L'Iliade insiste sur cette imperfection des rois et l'explique par le fait qu'un mortel ne saurait être comblé de tous les dons. En gros, celui qui reçoit le sceptre doit bien être privé de quelques qualités essentielles. Et dans l'Iliade, les rois payent cher cette imperfection souvent. Et l'Odyssée, en revanche, montre la restauration d'un roi légitime, qui est Ulysse, lorsqu'il revient à Ithaque, et le triomphe en fait, d'un être qui est exceptionnel et qui est doté de toutes les qualités. Et puis il y a une phrase aussi dans l'Odyssée qui est comme une réponse en fait à l'Iliade. C'est lorsque Ulysse descend aux enfers et qu'il va voir Achille. Achille lui dit qu'il préférait être un être vivant misérable plutôt qu'un mort glorieux. C'est exactement l'inverse de la pensée de l'Iliade.
Voilà. Et pour terminer, Alexis, on dit que les œuvres d'Homère seraient en réalité des œuvres collectives. Après avoir travaillé sur ce dossier, quelle est votre conviction ?
Oui, on dit qu'elles sont collectives, qu'elles ont été composées en fait sur un temps long à partir de plusieurs traditions et qu'en fait il y aurait eu un compilateur à la fin qui aurait tout rassemblé. Moi, j'ai plutôt tendance à penser, comme Julien Gracq le pensait des Évangiles d'ailleurs, il y a cette unité de style, cette unité de fond et de forme qui me disent, à moi lecteur, que c'est probablement un seul individu, un poète, un aède qui composait dans le courant du 8e siècle et qui était, on sait aujourd'hui que les grands maîtres de la tradition orale sont capables de composer des œuvres extrêmement vastes. Et on sait aussi d'ailleurs que l'alphabet grec est un peu plus ancien qu'on ne le pensait au début. On sait qu'il serait apparu vers le 9e siècle. Donc Homère aurait pu en fait bénéficier de cette nouvelle technologie qu'était l'écriture pour composer ses poèmes géniaux. Voilà, je crois.
Évidemment, c'est l'hypothèse la plus romantique qu'en bon journaliste,
voilà,
que je vous retenez.
Je souligne exactement.
Bravo.
On ne se refait pas.
Et merci. Voilà. Tout cela et bien plus encore à lire dans les pages et les colonnes du magazine littéraire d'Octobre.